L'EM, l'émission, sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Transistor, le nouveau nom de Radio Évasion. L'EM, c'est toujours en direct à midi, c'est toujours rediffusé à 18h. Aujourd'hui, on va sortir un peu nos habitudes pour frôler l'actualité et un sujet des plus brûlants, le conflit entre Israël et la Palestine. Nous allons cependant le traiter en dehors de l'actualité, où on va prendre du recul si vous préférez, avec notre invitée qui a bien du mérite en ce début d'année très guerrier. Elle s'accroche à son vœu le plus cher, la paix, alors que les bruits de bottes et les coups de canon résonnent de partout. Le mouvement de la paix, c'est l'association à laquelle elle appartient et on l'a déjà reçue sous notre antenne pour en parler. Nous continuerons car on veut y croire qu'un jour, oui, un jour, Israël et la Palestine cohabiteront en paix, malgré un conflit qui remonte à la création même de l'État d'Israël, voire avant. Disons que la première guerre entre les deux parties date de 1948 et depuis, ce conflit éclate, puis se calme, puis ça recommence. Dans cette émission, on ne va pas compter les morts depuis le 7 octobre, on ne va pas analyser la posture du Hamas ou du gouvernement Netanyahou, on va tâcher de faire autrement, de parler des gens notamment. Bonjour Noël Péor.
Bonjour.
Alors le mouvement de la paix a quand même un point de vue sur ce conflit en cours. Lequel ?
Alors bien sûr, déjà le mouvement de la paix a condamné très fermement le 7 octobre là, les attaques du Hamas contre les populations civiles qui ont fait 1200 morts. Mais nous estimons que ça ne se justifie en rien le crime contre l'humanité qui est commis aujourd'hui à Gaza sur la population de 2 millions d'habitants actuellement. Gaza étant une prison à ciel ouvert depuis 16 ans et devient actuellement un cimetière à ciel ouvert.
Pour retracer la géographie, en gros, c'est une bande de terre contre la mer et entourée par l'État d'Israël,
voilà,
c'est ça hein.
C'est une toute petite bande qui fait 41 km de long sur 12 km de large. C'est-à-dire que c'est une toute petite bande qui correspondrait, si on cherche une équivalence ici dans le Finistère, au pays Bigoudin à peu près.
Oui, donc c'est pas bien grand.
C'est tout petit. C'est tout petit et il y a 2 300 000 habitants. C'est l'une des régions les plus peuplées au monde.
Ouais, c'est très dense, très dense.
Très, très dense, oui.
Et donc, on parle de crime contre l'humanité. Il faut peut-être redéfinir ce que c'est un crime contre l'humanité officiellement. Enfin, il y a une définition officielle.
Alors, c'est extrêmement compliqué. Déjà, ça veut dire qu'on veut supprimer toute une population. Donc, ça va au-delà du simple nettoyage ethnique.
Je parle pas de génocide, je parle de crime contre l'humanité. Qu'est-ce qui définit un crime contre l'humanité?
Le crime contre l'humanité, c'est simplement quand on s'attaque à des populations civiles. Lorsqu'il y a une guerre et que deux armées s'affrontent, bon, ça paraît normal, entre guillemets. Oui. Mais lorsqu'on s'attaque exclusivement à des population civile, on appelle ça un crime contre l'humanité.
Donc ça, c'est qualifié en droit international, c'est
tout
ça?
Tout à fait, c'est le droit international qui définit le crime contre l'humanité de cette manière.
Et donc, tout dans ce conflit, dans la phase actuelle du conflit, tout est crime contre l'humanité, quasiment. Quoi.
Absolument.
Dès
absolument.
Le départ, voilà.
Absolument.
Le Hamas qui attaque des populations absolument. Civiles et, à l'inverse, le gouvernement israélien qui attaque des populations civiles. Quoi.
Tout à fait.
En fait.
Tout
même s'ils disent, évidemment, ils vont dire qu'ils s'attaquent à des soldats, mais bon, le problème, c'est qu'ils ne font pas de détails.
Non, et puis il n'y a pas d'armée à Gaza. Il y a un groupe de terroristes, le Hamas, c'est du moins comme ça qu'il est défini, mais il n'y a pas d'armée au même titre que l'armée israélienne, qui est, rappelons-le, l'une des plus puissantes au monde.
Et la Palestine a-t-elle une armée officielle?
Non, pas du tout.
Mm-hmm. Parce qu'elle n'est pas un État, en fait.
Non,
c'est ça.
C'est ça, voilà. La Palestine n'est pas reconnue en tant qu'État.
C'est la quadrature du cercle.
C'est le problème, oui.
Et alors, donc vous, Noël, vous êtes allé déjà en Palestine, mais pas dans la bande de Gaza, c'est ça? Où est-ce que vous êtes allé et pourquoi?
Voilà, je suis allée en Cisjordanie. Il faut savoir que lors du partage du territoire entre Israël, l'État d'Israël et les Palestiniens, deux territoires ont été attribués aux Palestiniens, la Cisjordanie et la bande de Gaza. Et donc, je ne suis jamais allée à Gaza. En revanche, je suis allée deux fois en Cisjordanie dans le cadre de l'association France-Palestine Solidarité du Centre-Bretagne. Je suis adhérente de ce groupe local, dont le siège est d'ailleurs à Carhaix. Voilà, donc j'y suis allée deux fois dans le camp d'El Haroum, Alors, le camp d'El Haroub, c'est un camp de réfugiés, bien sûr, palestiniens, qui est jumelé avec la ville de Carhaix depuis 2010.
Ah oui, le camp est jumelé. On peut se jumeler avec des...
Tout à fait.
Des camps de réfugiés, en fait.
Il y a énormément de villes qui sont jumelées avec différents camps. Morlaix est également jumelée avec un autre camp palestinien, de réfugiés palestiniens, en Cisjordanie.
Et pourquoi est-ce qu'il y a des camps de réfugiés palestiniens en Palestine, en Cisjordanie, en l'occurrence? Alors, pourquoi ça ne serait pas juste des Palestiniens en Palestine, quoi?
Oui. Alors, en 1948, lorsque l'État israélien a été créé, il y a eu une guerre, évidemment, puisque ça ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Les Palestiniens qui ont toujours vécu sur cette terre ont aussi réagi. Mais l'armée israélienne était bien plus puissante et a chassé, en tout cas, ça a créé une exode très importante de Palestiniens vers d'autres régions, notamment le Liban, la Jordanie et également les territoires qui leur étaient déjà attribués, c'est-à-dire la Cisjordanie et Gaza. Et en fait, il y a 49 camps qui ont été créés de cette manière-là. Et à Gaza, proprement dit, il y a plusieurs camps. Je crois que c'est 9 ou 10 camps qu'il doit y avoir à Gaza.
Et pourquoi ce n'est pas devenu des villes depuis le temps, des villes implantées, tout simplement, en fait, c'est
Parce que ce sont des réfugiés. Or, dans le droit international, quand il y a une guerre, à un moment donné, les réfugiés doivent pouvoir revenir dans leur ville, dans leur pays
d'origine.
Ça s'appelle le droit au retour. Or, ce droit n'est pas du tout appliqué parce qu'Israël n'y tient pas. Israël ne tient pas à voir revenir les Palestiniens chez eux. Voilà, donc depuis tout ce temps-là, les gens sont dans des camps en Jordanie, au Liban. Au Liban, il y a 12 camps, par exemple, 12 camps qui existent. Et du coup, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, donc, a créé une aide particulière qui s'appelle l'UNRWA, en faveur des réfugiés palestiniens, puisqu'ils n'ont pas beaucoup de ressources, évidemment, puisqu'ils sont dans ces camps-là.
Mais est-ce que ce sont quand même des camps où est-ce qu'il y a des structures en dur qui se sont créées avec les années?
Enfin, bien sûr.
Ils sont plus sous tente, j'imagine.
Non. Quand on regarde l'histoire des Palestiniens, au tout début, évidemment, ils étaient sous tente. Et puis, petit à petit, ils ont construit de briques et de brocs dans leurs camps, les maisons. Et puis, ils se sont entassés dans des tout petits territoires comme ça, et chaque fois qu'il y a des naissances nouvelles, ils construisent un étage supplémentaire avec ce qu'ils trouvent.
Et les jumelages, donc Carhaix ou Morlaix avec des camps, et évidemment c'est une décision politique, mais il y a un soutien financier derrière, comment ça se passe?
Tout à fait, il y a des soutiens du conseil général aussi d'ailleurs, la mairie de Carhaix soutient aussi et apporte un financement. Autrement, c'est aussi les militants de l'association France-Palestine Solidarité de Carhaix qui se débrouille pour aussi avoir d'autres financements, surtout quand elle fait venir par exemple des délégations palestiniennes. Très régulièrement, on fait venir des Palestiniens d'El Haroub, évidemment, de ce camp-là particulièrement, mais aussi d'autres, puisque là, au mois de juin, par exemple, le 29 juin, nous avons fait venir des danseurs de Gaza. Ça a été exceptionnel. Ils sont venus nous faire une démonstration de danse, c'était absolument magnifique.
Donc il y a encore une vie culturelle là-bas, enfin avant en tout cas le conflit qui a éclaté.
C'est extraordinaire, ces gens-là qui vivent dans la grande souffrance, c'est un peuple opprimé constamment, ont pour objectif de transmettre à leurs enfants leur culture, tant sur le plan musical qu'artistique, la langue aussi évidemment, les danses et toutes leurs coutumes traditionnelles, la broderie énormément aussi, les femmes brodent beaucoup, c'est magnifique le travail qui est fait, et il y a cette volonté de conserver leur identité propre, c'est un peuple extrêmement digne.
Donc là vous étiez allé à El Haroub, c'est ça?
Enfin,
c'est
El Haroub. Oui.
Est-ce que vous pouvez nous décrire à quoi ça ressemble? Enfin, c'était il y a longtemps, ce voyage?
Alors, la première fois, je suis allée en 2016 avec un groupe de 16 participants de Carhaix. Et ensuite, j'y suis retournée en 2018, nous étions trois.
Et c'était pour quel but?
Alors, c'est dans le cadre de l'aide humanitaire qu'on apporte au camp. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, dans notre association France-Palestine Solidarité de Carhaix, on parraine des enfants. Donc, chaque mois, on donne une certaine somme pour un enfant particulier. C'est organisé par la FPS nationale. Ça. Donc, on donne un peu d'argent pour venir en aide aux enfants du camp. Et
Donc c'est plutôt une aide aussi bien matérielle.
Non, que... c'est financier.
Enfin oui, financière, mais ça se traduit. C'est quoi ? C'est pour le quotidien ou c'est pour les études ?
Oui,
ou pour...
c'est ça. C'est pour aider les familles, quoi, à subvenir aux besoins de leurs enfants dans tous les domaines. Après, nous, on contrôle pas. Hein,
d'accord.
Voilà. Donc on fait ça, mais on fait aussi, par exemple, on a fait des achats de mobilier pour la maison de l'enfance, du matériel pour les écoles. On a récemment aidé à l'installation de ruchers aussi. On fait aussi des réceptions de délégations palestiniennes régulièrement. On organise des séjours aussi en Cisjordanie. Donc ça, c'était un des séjours qu'on avait organisé en 2016. Et puis ensuite, j'y suis retournée en 2018.
Et alors, qu'est-ce que vous avez vu là-bas ?
Alors,
ce qui vous a frappé ?
Alors, déjà, mon premier voyage en octobre 2016, ça a été un véritable choc. Hein. Ça, c'est une évidence. On revient complètement changé et on ne perçoit plus le monde de la même façon. Ça, c'est évident. Donc, d'abord, en arrivant, on voit la différence. Dès qu'on quitte l'aéroport de Ben Gurion, là, on est en Israël à ce moment-là. Donc on voit, c'est très beau, c'est très propre, les rues sont nickel, et les bâtiments sont comme on peut voir chez nous.
C'est un pays occidental,
puis,
en fait.
Dès qu'on passe dans la zone palestinienne, c'est le jour et la nuit, quoi. C'est pauvre, c'est démuni, enfin on voit ça tout de suite. Hein. Et puis alors, dès qu'on arrive aussi dans le camp proprement dit, à l'entrée du camp, il y a une tour de guet, une sorte de mirador. Et en haut duquel se trouvent des soldats qu'on ne voit jamais. Il y a des vitres fumées qui sont tout en haut, donc on ne les voit jamais.
Donc mais des soldats israéliens.
Ah bah oui, bien sûr.
Qui surveillent, en fait, c'est ça ?
C'est l'armée d'occupation qui est là, quoi. Mm-hmm. Donc c'est les soldats israéliens qui sont là, qui surveillent le camp en permanence. Alors, donc, ce qu'on peut voir, donc, c'est la pauvreté qui est omniprésente, hein, des habitations vétustes, faites de briques et de brocs, comme je disais tout à l'heure, des rues défoncées, des poubelles débordantes d'ordures, puisqu'il n'y a pas de système de ramassage. Je vous disais tout à l'heure que...
Il y a pourtant une administration, hein, en Cisjordanie,
oui, bien
on est
sûr.
D'accord.
Il y a même un maire qui est élu. Enfin, un maire, c'est sans doute pas le terme qu'ils emploient, eux, mais enfin, je veux dire ça comme ça, c'est un maire qui est élu avec une sorte de conseil municipal, si je puis dire. Mais,
et puis sinon, à plus haute échelle, il y a un président, enfin, une sorte de président, enfin, oui, c'est
ça. Il y a l'autorité palestinienne gère ça, l'autorité palestinienne, mais ils n'ont pas suffisamment d'argent. Donc, les financements viennent essentiellement de l'UNRWA, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, c'est une organisation qui a été créée au moment de la guerre en 1948 pour venir en aide aux réfugiés. Donc, pour ce qui concerne les écoles, le ramassage des ordures et la santé, c'est cette organisation de l'ONU qui est chargée de s'occuper de ça dans les camps de réfugiés palestiniens. Ceci dit, quand Trump a été élu, par exemple, les subventions attribuées à cette organisation par les États-Unis ont été divisées par trois. Donc, par ailleurs, dans le monde occidental, il y a eu tellement de difficultés aussi financières que les subventions ont aussi beaucoup diminué.
Et il n'y a pas d'autres pays, on pourrait penser que les pays arabes ont une solidarité, par exemple, avec les Palestiniens, ils ne financent pas les monarchies pétrolières, par exemple.
Pas dans ce cadre-là, dans le cadre de l'UNRWA, puisqu'il y a... Voilà. Enfin, je ne crois pas, en tout cas. Peut-être que j'ai une bêtise. Hein. Oups, je ne sais plus.
Je ne voulais pas poser une question piège.
Non, peut-être.
En tout cas, il n'y a pas assez d'argent.
Ah non. Et donc, les employés de l'UNRWA qui devraient se charger, par exemple, du ramassage des ordures, ne le font pas ou peu, quoi. Si bien que tout ça reste aussi dans les rues, voilà.
Et donc, ces gens, les gens, les Palestiniens, qu'est-ce qu'ils vous ont dit à votre délégation ? Qu'est-ce qu'ils ont dit, en fait ? Quel était le message ?
Alors, le principal message qu'ils nous disent, d'abord, ils nous remercient de venir. Ils ont besoin de cette solidarité internationale. Ils nous disent clairement, nous, on ne peut rien contre cette armée d'occupation. Et on est complètement démunis, on n'a pas d'armes, on n'a pas de... Et donc, le seul moyen qu'ils voient pour qu'un jour, leur problème d'État palestinien soit résolu, c'est que qu'il y ait une intervention de la communauté internationale. Et ils espèrent que nous, par nos actions en France, comme il y en a dans d'autres pays, hein, en Allemagne, en Angleterre, un petit peu partout, il y a des associations pour défendre la cause palestinienne. Et donc, ils espèrent que par ces moyens-là, on arrive un jour à peut-être régler le problème palestinien. Quoi. Mmh. Donc, ils comptent là-dessus essentiellement. Donc, ça, c'est la première des choses qu'ils nous
disent. Donc, c'est important de leur témoigner des marques d'attention,
absolument,
en fait, c'est ça ?
Absolument. Ils se sentent beaucoup moins isolés et ça leur donne du courage aussi pour continuer leur résistance. Ils ont une résistance passive, essentiellement, que l'on retrouve d'ailleurs quand on parcourt le camp, celui-là, mais j'en ai parcouru d'autres encore, hein, l'un des plus grands, Balata, là, du côté de Naplouse. Quand on parcourt le camp, on voit sur les murs beaucoup de dessins, de slogans, et aussi les portraits. De très grands portraits des martyrs. Les martyrs, ce sont ceux qui ont été tués par les soldats israéliens. Il se trouve qu'El Arum est particulièrement touchée par les exactions des Israéliens, des soldats israéliens, qui entrent fréquemment dans le camp. La nuit, généralement c'est la nuit, ils tapent aux portes, quelquefois ils les défoncent, ils rentrent dans les maisons, ils fouillent, ils cassent, les enfants hurlent, tout le monde est terrorisé dans la famille, et il arrive qu'ils emmènent un Palestinien, qu'il soit adulte ou enfant, en prison, sans informer la famille.
Et pourquoi, c'est extrêmement fréquent. C'est quoi leur argument, en fait, l'argument des Israéliens, c'est parce que c'est des terroristes présumés, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Tout Palestinien est un terroriste présumé à leurs yeux. C'est ça le souci, quoi. Et j'ai vécu un moment extrêmement émouvant qui m'a bouleversée. C'est quand j'ai été accueillie dans une des familles. Un couple qui nous a reçus, qui nous a offert le thé d'ailleurs, et puis qui, dans le salon, il y avait une photo, une très très grande photo représentant leur gamin de 15 ans qui venait d'être tué dans les rues d'El Arum, sans raison, comme ça, quelques semaines avant qu'on arrive, nous. Et elle nous montrait sur son portable, la dame, les obsèques de ce gamin. Enfin voilà, c'était extrêmement, extrêmement dur, extrêmement émouvant. Et donc c'est très très fréquent qu'à El Arum, ça se passe ainsi. Alors quelquefois, les enfants réagissent contre les soldats quand ils arrivent à coups de pierre.
Oui, c'est ça, la fameuse intifada.
Ouais, c'est pas l'intifada, mais là, juste parce qu'ils sont en colère, et puis ils sont petits, ils ne se rendent pas bien compte. Mais
donc il y a aussi une sorte... Enfin, un ressentiment, une haine aussi qui est entretenue de génération en génération, finalement, en fait. Quoi. C'est peut pas se résoudre.
Non.
Et les Israéliens, est-ce que vous avez, votre délégation, a eu l'occasion d'échanger avec des Israéliens ?
Alors, on a rencontré Michel Vacharski. Alors, Michel Vacharski, qui a actuellement 74 ans, donc c'est en 2016 quand on l'a rencontré en Cisjordanie. Et il habite Jérusalem. Mais il est très souvent aussi en France. Et lui, il milite pour la cause palestinienne depuis très très longtemps.
Donc il y en a des Israéliens qui militent pour la cause.
Absolument, il y a un mouvement de la paix en Israël. Et il y a aussi des mouvements de femmes en Israël, femmes palestiniennes et femmes israéliennes.
Qui travaillent ensemble, en fait.
Qui travaillent ensemble et qui font des manifestations pour justement demander la paix et faire en sorte que des négociations se mettent en cours et qu'on reconnaisse les droits des Palestiniens. Parce que le gros souci, c'est que le droit... international n'est pas reconnu. De nombreuses résolutions ont été écrites par l'Organisation des Nations Unies, mais n'ont jamais été respectées par Israël. Si bien que il y a une injustice de fait et la communauté internationale est complètement absente, y compris la France. Il y a une lâcheté à l'égard de ce problème qui aurait dû être résolu depuis longtemps.
Et les Israéliens que vous avez pu rencontrer, qu'est-ce qu'ils disent justement ? Ils disent pourquoi d'après eux, ça ne se développe pas ? Pourquoi leurs compatriotes restent arc-boutés sur le côté faucon, enfin la guerre avant tout en fait ?
Oui. Alors ça vient des gouvernements, hein, probablement.
Bien sûr.
C'est surtout les gouvernements qui prennent les décisions. Et la politique gouvernementale israélienne depuis des années, c'est une politique de colonisation. Et encore plus depuis qu'il y a ce gouvernement d'extrême droite qui s'est mis en place, là, le dernier gouvernement, l'objectif étant de faire un grand Israël en occupant tous les espaces. C'est-à-dire en prenant les territoires des Palestiniens. Aujourd'hui,
et pourtant, ils ont bien conscience que Bah, ils doivent bien avoir conscience que ça ne peut pas passer comme une lettre à la poste, cette attitude, bah, cette politique. D'ailleurs, ils l'ont vu, là, ils ont payé pour voir.
Sauf que jusqu'à présent, la communauté internationale a laissé faire. Et aujourd'hui, la Cisjordanie, c'est un véritable gruyère. C'est-à-dire que les colonies se sont installées un petit peu partout en Cisjordanie. Et des murs, un mur absolument épouvantable qui a été construit tout le long en fait du territoire de la Cisjordanie, empêchant les colons juifs de rencontrer les Palestiniens, puisque les routes ne sont pas les mêmes.
C'est la question que j'allais poser. Est-ce qu'il y a des endroits dans ce pays, dans ce double pays, où les populations cohabitent, travaillent ensemble, même à la rigueur? Est-ce que ça existe des endroits encore où les Palestiniens et les Israéliens peuvent cohabiter vraiment?
Alors, en Israël, après 48, tous les Palestiniens ne sont pas partis. Donc, il reste encore des Palestiniens en Israël et qui sont israéliens. Ils ont la nationalité israélienne. Mais avec ce gouvernement-là a décrété que l'État israélien était un État juif. Du même coup, ils excluent les Arabes habitant Israël.
Et les chrétiens aussi, du coup.
Et les chrétiens également. Voilà.
Oui, donc là, c'est vraiment une orientation politique récente, si on veut. Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu des périodes où peut-être que ça se passait mieux, entre guillemets.
Oui, c'est ça.
Et la colonisation n'a pas toujours existé. Enfin, cette colonisation en gruyère n'a pas toujours existé, j'imagine. Il y a eu des périodes où...
Dès l'instant où il y a eu les territoires palestiniens qui ont été attribués, puisque en fait la Palestine a été partagée en deux en 1948, après la Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs, les Palestiniens avaient accepté ce partage, alors que c'était leur territoire. Quoi. Et cette guerre, avant la création de l'État israélien, les Palestiniens et les Juifs vivaient en bonne entente, il n'y avait aucun souci. Mais à partir de ce moment-là, ça a été évidemment tout de suite très conflictuel, évidemment. Voilà. Et qu'est-ce que j'étais...
Et donc ces militants israéliens pour la paix, ils existent encore. Ça se réduit pas comme peau de chagrin
Non, pas du tout. Il y a aussi deux personnalités qu'on a rencontrées qui sont venues à Carré d'ailleurs. C'est Pierre Stamboul et Sarah Katz. Alors Pierre Stamboul a d'ailleurs écrit de nombreux livres sur. Alors il est juif lui aussi, évidemment. C'est des juifs israéliens. Et Sarah Katz également, c'est sa compagne. Et ils ont écrit des livres, d'ailleurs, pour témoigner de ce qu'ils ont vu, sachant que Sarah Katz a vécu plus d'un an à Gaza. Mais ça, c'était bien avant ce qui vient de se passer. Et ils intervenaient, d'ailleurs, souvent dans le cadre humanitaire, mais pas seulement. C'était aussi politique, leur démarche.
Bien sûr, bien sûr.
Et entre autres, à Gaza, ils ont passé des films dans lesquels ils montraient les relations qu'ils avaient d'abord avec la population de Gaza et le fait qu'ils avaient réussi à un moment donné à créer une réserve d'eau en altitude là puisqu'il y a des gros soucis d'approvisionnement en eau potable.
Alors, on dit souvent que le conflit israélo-palestinien est une guerre de l'eau. Alors, c'est pas complètement faux, j'imagine.
C'est ça. Les Israéliens se sont appropriés toutes les sources, quasiment quoi, toutes les sources d'eau potable et donc au détriment des Palestiniens.
Et les Palestiniens en Cisjordanie ou à Gaza, de quoi vivent-ils? Il faut bien qu'ils trouvent de quoi gagner de l'argent. Il n'y a pas que la solidarité internationale, j'imagine.
Tout à fait. Donc, ils vivent d'aumône, beaucoup quand même, mais parce qu'il y a énormément de chômage. Mais ils cultivent aussi les oliviers quand ils peuvent, au checkpoint, parce que régulièrement, ils ne circulent pas librement. Je vous disais qu'il y avait des colonies et des murs, et donc il y a des checkpoints, c'est-à-dire que c'est des checkpoints, c'est des endroits de passage obligés pour les Palestiniens
qui se font contrôler
par les soldats israéliens, qui peuvent les garder d'ailleurs autant d'heures qu'ils veulent. Certains même peuvent rester une journée entière avant de pouvoir passer. Et donc c'est leur quotidien, c'est pour les plus jeunes, c'est d'aller faire leurs études. Quelquefois, ils ne peuvent même pas traverser le checkpoint parce qu'on leur interdit. Mais enfin bon, il faut qu'ils passent par là. Il y a aussi la culture des oliviers. Alors ça, j'ai eu l'occasion de la faire, la culture des oliviers aussi. Pas la culture, la récolte, pas la culture. La récolte des oliviers. Parce qu'en fait, Donc il y a ça. Il y a aussi, ils cultivent aussi le raisin. Et ils ont créé d'ailleurs sur en Cisjordanie, pas très loin des Laroubles, une coopérative de raisins pour pouvoir permettre justement aux paysans et palestiniens d'en vivre. C'était beaucoup plus facile comme ça. Ça a été fait par un des militants très à même de régler ce problème, qui s'appelle Raled, là, qu'on a rencontré aussi. Et puis, de quoi ils vivent autrement? Alors, certains d'entre eux travaillent beaucoup aussi pour les Israéliens, parce que les Israéliens ont besoin de main-d'œuvre. Les Palestiniens sont beaucoup plus nombreux.
Ah oui.
Et donc, voilà.
Oui, donc il y aurait moyen qu'ils vivent. Voilà. Enfin, il y aurait moyen qu'ils vivent en bonne intelligence. Enfin, je ne sais pas comment on peut dire ça, en fait. Ce serait logique, finalement.
Oui, mais sauf que là, avec ce qui se passe à Gaza, ouais, c'est la haine hein, qui est des deux côtés.
C'est
des
ça.
Deux côtés, puisque les Israéliens sont très remontés contre les Palestiniens depuis la attaque du Hamas le 7 octobre. Et là, ce qui se passe à Gaza, c'est l'horreur. C'est inimaginable.
Bien. Ben, on va s'arrêter là. On va essayer quand même de reprendre un jour rendez-vous sous des cieux plus cléments pour reparler de ce conflit, enfin de ce conflit, de ces relations.
Ouais.
Merci beaucoup, Noël. À bientôt.
Et merci à vous.
Au revoir.